Père, c'est dans le nom de ton fils Jésus qu'on est devant toi ce matin. On veut t'offrir le petit peu qu'on est, Seigneur, les 5 pains et les 2 poissons. Mais on le sait, Seigneur, par ta présence, par ta puissance, par tes miracles que tu peux faire, Seigneur, il y a une multiplication, puis ça produit du fruit en abondance. C'est pour ça qu'on te remet nos vies entre tes mains, Seigneur. On compte sur toi pour que tu agisses ce matin dans nos cœurs, pour nous faire grandir, pour bâtir des choses dans notre entendement, qu'on soit bâti sur ta parole, qui est la vérité. On remet nos ventres entre tes mains, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. On a commencé une étude, voilà, quelques semaines, sur qu'on a été, on est en train d'être préparé pour la guerre. Normalement, c'est qu'on a été préparé. Mais des fois, si on n'a pas compris qu'est-ce qui était comme combat, comme lutte en tant que chrétien, on a besoin d'être préparé. Parce que après 30 ans de vie chrétienne, ou après 10 ans de vie chrétienne, après 20 ans de vie chrétienne, on est supposé de le savoir, c'est quoi le combat du chrétien, ou les combats du chrétien. Ça peut arriver qu'on l'a su et qu'on l'a oublié, mais on a été préparé, tout est là à la disposition. Tout est là pour qu'on devienne des soldats pour Jésus. Combien est-ce qu'il y en a ici qui se sont enrôlés dans l'armée du Seigneur? Parce que c'est l'Éternel des armées. Amen. Dieu, il y a plusieurs armées. Il y a l'armée céleste, les millions d'anges dans le ciel qui sont l'armée de Dieu. Puis son autre armée est où? C'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ, les croyants, c'est l'armée du Seigneur sur la terre, puis on est des soldats. Puis il y a toutes sortes de règles qu'un soldat, quand il s'est enrôlé, qu'il doit respecter. Il y a toutes sortes de choses qu'il a à apprendre pour être efficace. Parce qu'un soldat ne marche pas individuellement, il marche en équipe avec les autres. Puis on a besoin d'apprendre à marcher en équipe selon les commandements. Le haut commandement nous donne des ordres. C'est qui le haut commandement? C'est Dieu par son Saint-Esprit. Il nous a donné sa parole, la Bible. Ça, c'est le haut commandement, le quartier général, le headquarter, comme qu'il dit en anglais. Puis on a un headquarter, c'est Dieu. Le Saint-Esprit agit dans nos vies pour nous amener à ce qu'on respecte le mode de vie, qu'on respecte aussi les divers principes que Dieu nous a donnés. Aujourd'hui, on va voir le troisième grand combat du chrétien. On a vu déjà que le premier combat du chrétien, c'est de persévérer jusqu'à la fin. Il faut que tu persévères dans la foi jusqu'à la fin. Le deuxième, c'était, faut que le chrétien apprenne à combattre contre le péché. Parce que s'il y a bien une chose qui met comme en déroute notre boussole, savez-vous qu'il y a des choses qui peuvent dérouter une boussole? Une boussole, là, normalement, ça fixe vers le nord. Fait que tu t'arrives dans n'importe quelle position, elle fixe à la bonne place. Notre boussole spirituelle, notre bon entendement, il est supposé de nous fixer vers le haut, vers Dieu. Mais ça arrive des fois qu'à cause du péché, pas des fois, ça arrive à toutes les fois, que quand le péché rentre dans notre vie, c'est pas mis à jour devant Dieu, qu'on ne demande pas pardon, puis qu'on ne fait pas le ménage, notre boussole s'en vient désorientée, on ne sait même plus où est-ce qu'on s'en va. On est en train de prendre une dérive, puis le chrétien doit apprendre à combattre contre le péché. Aujourd'hui, on va voir le troisième combat, qui est aussi important que les deux autres. Combattre pour la foi. Vous allez comprendre pourquoi. Combattre contre les fausses doctrines. Il faut, en tant que chrétien, combattre pour la foi qui a été transmise aux saints. Dans Jude, au verset 3, je n'ai pas fait d'acétate, allez vérifier dans la Bible pour vérifier si tout ce que je vous dis est exact. Dans Jude au verset 3, parce qu'il n'y a pas de chapitre dans Jude, « Puis ça, c'est des versets qui étaient d'actualité il y a 2000 ans. Puis croyez-moi que à où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, c'est encore 100% d'actualité. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints, une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous, dans le christianisme, dans parmi les chrétiens, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution, en dérèglement ou débauche, là, je vais leur expliquer un petit peu, et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que la foi qui a été transmise aux saints? Là, ce passage-là, c'est en train de nous dire que tous les chrétiens, il ne parle pas juste à des pasteurs, tous les chrétiens doivent apprendre à combattre pour la foi. La foi, là, dans ce qu'on voit, dans ce que ça veut démontrer, là, la foi, là, l'objet de la foi, ou tout ce qui est de notre foi, la révélation de Jésus, la connaissance de la parole de Dieu que Jésus nous a révélée dans sa parole, tout cela, là, si on identifie ça que c'est un objet, là, c'est ce qu'il y a de plus précieux et de plus important pour ma vie, en tout cas. Ça devrait l'être pour chacun de vous. Il n'y a rien de plus important que les détails de notre foi. Si on met ça par écrit, on a-tu une Bible? Bon, mais lève ta Bible. Si on met ça par écrit, là, c'est là, ce livre-là. Ce livre-là, puis qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est la révélation de Dieu. Tu as les plus grandes et plus précieuses promesses de Dieu. Il n'y a rien de plus grand sur la terre que qu'est-ce qui est écrit dans ce livre-là. C'est un livre éternel qui ne passera jamais. C'est plus solide, cela, que ce qui est écrit là-dedans, que le ciel et la terre. Parce que le ciel et la terre vont disparaître, mais sa parole ne passera jamais. Elle va demeurer éternellement. Puis même dans la fin des temps, les gens, quand ça va être la fin des temps, puis ça va être le jugement dernier, les gens vont être jugés d'après ses paroles, les paroles que Jésus nous a révélées. Il n'y a rien de plus important que ce qui est écrit là. Le salut de tout le monde dépend de ce qui est écrit là. Là-dedans, c'est un trésor. On trouve ça le fun quand on ouvre notre compte de banque pour envoyer un chiffre avec 1 ou 2 zéros, 3 zéros, 4 zéros, 5 zéros pour ceux qui sont bien plus comme bénis ou chanceux ou peu importe, ou choisis par Dieu pour avoir un ministère d'affaires de l'argent. On se sent béni quand on a des gros chiffres dans le compte de banque. C'est rien, frères et sœurs, ça, comparé quand tu rouvres ta Bible. Puis ça, c'est les richesses de Dieu. Il n'y a rien de plus grand que ce qui est écrit là. Tout le fait d'avoir connu Jésus, qu'est-ce qui est Jésus, c'est parce qu'on l'a lu, on l'a écouté, on l'a compris, puis on l'a reçu. Puis tous ces enseignements, ces révélations, ces paroles, ces déclarations, ces commandements, tous ces enseignements, ces paraboles, tout ce qui est là, c'est pour notre instruction afin qu'on soit sauvés. Il n'y a rien de plus important que d'être sauvé. Juste un amen.
Amen.
Il n'y a rien de plus important que d'être sauvé. Tu as beau avoir 100 000 $ à la banque, ça sert à quoi si tu meurs et tu t'en vas dans les temps de feu pour l'éternité? Ça a donné quoi? Tu as beau avoir des maisons, tu as beau avoir tous les biens que ça voudra, ça sert à rien si tu es perdu. À quoi ça sert de gagner l'univers si tu perds ton âme? Il n'y a rien de plus important que d'être sauvé puis d'être avec les élus au « When the saints go marching in », au « Quand les saints y entreront ». Quand on va rentrer dans la ville sainte, il n'y a rien de plus grand, merveilleux, extraordinaire que le jour où on va avoir les deux pieds dans la porte qu'on va rentrer avec les millions d'anges qui vont nous entourer puis qui vont chanter les louanges de Dieu puis que les saints vont rentrer dans la ville sainte où ce qui va avoir un un trip éternel, une histoire sans fin qui va se vivre dans la présence de notre Dieu glorieux. Tout ça grâce à tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli. Nous autres, on a juste pris ce qu'il nous a donné. Puis merci Seigneur, puis pour moi, il n'y a rien de plus important que ce qui est écrit dans ce livre-là. Ça, c'est la foi qui a été transmise aux saints. Puis dans ce verset-là, c'est en train de nous dire, apprenez à combattre pour cette foi-là. Il y en a qui mettent leur foi dans leur religion, il y en a qui mettent leur foi dans leur décoration, comme une médaille ou un petit crucifix, dans des objets de culte. Ça n'a aucune valeur. La seule place que la Bible nous dit de mettre notre foi, c'est dans la parole de Dieu. Puis celui qui va apprendre à mettre sa foi là-dedans va expérimenter déjà ici sur la terre des choses extraordinaires dans sa présence. C'est pour ça que c'est merveilleux. C'est celui qui demeure dans ma parole, il est vraiment mon disciple. Fait qu'il est important, si vous voulez être des vrais disciples de Jésus-Christ, d'apprendre à connaître la parole, et d'aller connaître la vérité si tu demeures dedans, puis la vérité vous rendra libre. Gloire à Dieu! Alléluia! Là, il nous exhorte, Jude, là, c'est grave, là. Dans le temps qu'on est rendu, je me suis senti obligé de vous exhorter, là, parce qu'il est en train de se passer quelque chose à ceux à qui que la lettre était transmise, où ce que la lettre s'est rendue. Il se passait quelque chose, puis là, Jude, il dit, wow, là, je lui écris, c'est important, il faut qu'ils réalisent ce qui est en train de se passer dans leur église, dans leur lieu de rassemblement. Il dit, c'est glissé parmi vous. Il y a des gens qui s'infiltrent dans l'église du Seigneur, puis ils sont là assis, puis ils se disent chrétiens, puis ils proclament des faussetés, des faux enseignements, des choses que Dieu n'a jamais dit, des choses qu'il n'a jamais même pensées, ou des choses qu'il ne veut même pas qu'on pense. C'est des mensonges. Si Dieu n'a pas pris la peine à ce qu'une phrase nous ait été écrite, laissée par écrit, si Dieu ne nous a pas laissé cela, là, ça n'a aucune importance. Les seules choses importantes, c'est ce qui est écrit là-dedans. Le reste, c'est toute la religion, ça sert à rien. Tu peux être assis dans une église qui se nourrit de semaine en semaine de belles déclarations, des grandes choses que les gens ils disent « Amen », c'est même pas des versets de la parole ou c'est des versets tordus, puis ils se perdent, ils sont mélangés, puis ils savent même plus comment faire la différence. Puis ça s'infiltre dans l'église. Les gens, je parle pas nécessairement ici à Saint-Rémy, mais j'en entends des fois des vertes puis des pommeux. Des choses qui n'est pas biblique ou des demi-vérités. Parce que des fois, on fait des déclarations avec des bouts de versets, puis on prend pas le temps d'étudier tout l'ensemble des versets pour faire une synthèse de l'enseignement pour savoir c'est quoi la vérité dans les choses. Puis là, Jude est à témoin que où ce qui se produisait, que cette lettre-là avait été envoyée, là, il y en a qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Quand tu y penses, cette phrase-là, là, tu tombes à terre. Tu tombes à terre. Savez-vous ce que ça veut dire? Premièrement, le mot dissolution. Dissolution, là, c'est un dérèglement, puis même des dérèglements sexuels. Il change la gloire, la grâce de Dieu en dissolution, en dérèglement. Puis, si on médite comme faut, là, cette phrase-là, vous allez vous apercevoir qu'on l'a entendu souvent, cette phrase-là. Ce que je vous dis là. Une fois que tu es sauvé, c'est pas grave qu'est-ce que tu fais dans ta vie. C'est pas grave, Dieu, il s'en fout que tu fasses des péchés. Puis là, c'est ce que j'ai déjà entendu dans des églises que j'ai déjà côtoyées. Une fois que tu es chrétien, là, Dieu t'a pardonné tous tes péchés passés, présents et à venir. Puis il ne tient plus compte du mode de vie que tu vis. C'est plus grave, tu peux faire ce que tu veux. Dieu nous a appelés à la liberté. Mais ça, là, c'est une fausse doctrine. Dieu ne nous a pas appelés à vivre n'importe comment. Savez-vous que dans Éphésiens, qui parle de la grâce, que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, ils êtes sauvés afin de pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. On n'a pas été sauvés pour être libre de toute règle morale et physique. ont été sauvés afin d'obéir, afin de marcher, afin de faire ce qu'ils nous demandent. Ça fait une grosse différence parce qu'ils sont en train de changer la grâce de Dieu en dérèglement. Ils enlèvent les règles comme si Dieu, ça ne dérange pas qu'on pêche. Il faut revenir à notre bon sens, frères et sœurs. Savez-vous qu'il y en a qui ont abandonné le Seigneur à cause de ce pensée-là? Parce qu'ils n'ont pas gardé la crainte de Dieu. Là, ils ont commencé à vivre dans le péché, c'était pas grave, puis youpi, puis on a du plaisir, puis là, ils couchent avec une, couchent avec l'autre, puis ils vivent dans la débauche. Pas longtemps après, la personne est contaminée par ses péchés. Sa foi, qu'est-ce qui arrive quand on attriste le Saint-Esprit et qu'on ne marche plus dans la parole de Dieu? On tombe sur un danse spirituellement. On n'a plus la foi qui nous motive à nous garder accrochés à Dieu. Puis en plus, on nourrit, on s'encourage avec des raisonnements qui nous disent « C'est pas grave, Dieu nous a pardonné, voilà, 20 ans, il m'a pardonné. C'est pas grave là, ce que je vis aujourd'hui. Je peux me permettre n'importe quoi. » Puis les gens se repentent plus de rien. Ils ont perdu le fil conducteur, la communion avec Dieu, sont refroidis spirituellement, sont rendus égarés, loin du chemin. Quand Jude a écrit cela, il voyait ces choses-là, puis il a pris la peine, là, il dit là, je vous exhorte, c'est ça qu'il dit, je vous encourage à combattre pour la foi. Il faut que vous la connaissiez, votre Bible, puis il faut que vous marchiez selon ce qui est écrit. Parce qu'il y en a qui changent ça en dérèglement, puis en viennent à renier Jésus. Quand que tu commences à vivre dans la débauche, tu es en train de le renier par tes œuvres. Toutes les révélations qu'on retrouve dans la parole de Dieu, les révélations de l'Ancien Testament, les révélations du Nouveau Testament, c'est notre trésor que Dieu nous a laissé, puis ce trésor-là, c'est une riche bénédiction qu'on le possède parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de Bible. On a une bénédiction d'avoir ce livre-là dans les mains, d'avoir le droit de le lire, puis de pouvoir se réunir pour l'étudier, puis entendre des choses qu'il y a d'écrites dedans, puis se nourrir de cela, puis grandir dans notre foi, puis que ça nous donne de persévérer. Puis tout ce qui est là, Dieu voulait nous bénir là-dedans et nous faire grandir. Puis quand on parle de gens qui nous ont avertis dans la parole de Dieu pour qu'est-ce qui se produirait dans la fin des temps. Puis la fin des temps, pour ceux qui ne le savent pas, elle a commencé il y a 2000 ans. Fait qu'on est encore dans la fin des temps depuis 2000 ans. On est dans la fin des temps, par exemple. Puis là, ce qui est écrit comme révélation des choses qui devaient arriver, ça a commencé il y a 2000 ans, puis ça dure encore aujourd'hui, puis on voit encore aujourd'hui des accomplissements, des choses qui sont écrites dans la parole, quand tu vois dans l'Apocalypse, les sceaux, ils sont déjà en train de s'ouvrir. Le tiers de la terre qui est frappé par la famine, ça existe déjà. Des tremblements de terre en divers lieux, ça existe déjà. Toutes ces révélations-là, des signes qui annonceraient le retour glorieux de notre Seigneur, ça nous est resté dans la parole. Puis ça fait partie de notre foi qu'on doit défendre, qu'on doit premièrement écouter, garder, pratiquer et défendre. Parce qu'il n'y a rien de plus précieux, comme je vous disais. L'Église, les croyants, l'Église, on est la gardienne des révélations de Jésus-Christ et de sa parole. L'Église a été placée sur la terre, parce que Dieu s'aurait voulu, à la minute qu'on est sauvé, tôt qu'il vienne nous chercher, on serait parti tout de suite, sans avoir à subir quoi que ce soit, on aurait pu être enlevé, puis on aurait vécu notre vie terrestre. Comme qu'on vivait, on y accepte, puis oups, on s'en va. Non, Dieu a voulu que les chrétiens restent là, puis que les chrétiens deviennent à être la lumière du monde. Puis les chrétiens sur la terre, quand on est en train de parler de la parole de Dieu, on est les gardiens. Vous avez sûrement déjà écouté des films qui avaient un peu cette idée-là, qu'il y avait un groupe ensemble de soldats, puis c'était les gardiens de quelque chose, puis là, ils se battent contre des affaires. Puis il y a eu beaucoup de films qui ont été faits dans cette idée-là. Mais nous, là, ça, c'est toutes des mythes, ça, ces affaires-là, c'est toutes des inventions, mais ça fait des belles histoires. Mais nous sommes réellement les gardiens de la révélation de Dieu. Il y en a, là, qui ont donné leur vie pour qu'on puisse avoir la Bible aujourd'hui. Ils ont donné leur vie, ils sont morts. Il y en a qui ont... ils se sont cachés, parce que quand, surtout quand, dans le temps de quand ils ont inventé l'imprimerie, là, comment il s'appelle, Gutenberg, je pense, qui a inventé l'imprimerie, puis c'est dans les années 1500 après Jésus-Christ, ils ont commencé à faire le premier livre qu'ils ont imprimé en Syrie avec l'imprimerie, c'est la Bible. Puis les plaquettes de tout ça qu'ils ont faites pour imprimer le livre, c'était la Bible King James, qui ont commencé à imprimer, puis il y a d'autres sortes de bibles aussi. Puis, il y en a là qui cherchaient à trouver ces plaquettes-là pour les détruire, puis il y en a qui ont payé de leur vie pour pouvoir les cacher. Ils n'ont pas voulu dire ce qui était, puis ils se sont fait assassiner, parce qu'ils connaissaient leur rôle de gardien, défenseur de la parole de Dieu, des combattants, pour défendre la foi qui a été transmise aux saints. Puis aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous sommes les défendeurs. S'il y a quelqu'un qui peut prendre position pour Dieu puis pour sa parole sur la terre, c'est nous. Puis le Seigneur nous exhorte à ne pas avoir honte de lui ni de sa parole devant cette génération perverse, mais qu'on soit des soldats, des gens capables de n'en parler puis de dire les vraies choses. Ça, c'est écrit dans 1 Timothée au chapitre 3, le verset 14. Il dit, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, afin que tu saches que si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Paul est en train d'écrire, puis il dit, « Je t'écris afin que tu saches. » Comment tu dois te conduire en tant que chrétien, puis tu dois connaître aussi, il faut que tu saches que l'Église, c'est le temple de Dieu, puis on est la colonne et l'appui de la vérité. Sur la terre, la Bible, elle a une colonne. À quoi ça sert une colonne en passant? Votre colonne vertébrale, elle sert à quoi? À vous supporter le corps pour vous rester droit, bien droit. Mais en tant que chrétien, vous êtes les supporteurs de la parole de Dieu. Vous êtes les supporteurs de la Bible. Vous êtes les défenseurs de la Bible. Vous êtes les gardiens de la vérité. Vous êtes les combattants pour la vérité. Vous êtes la colonne vertébrale de la parole de Dieu. Puis c'est Dieu qui a voulu ça, que nous le soyons. Que sur la terre, qu'on peut se tenir debout, de se tenir droit, puis de dire ce qu'on a à dire quand c'est le temps de déclarer les versets de la parole. De pas venir avec une colonne tout molle qui branle dans le manche là, puis un petit coup de vent puis on branche un petit coup de vent puis on branche un bord puis un autre petit coup de vent on branche l'autre bord. On n'est pas des roseaux agités par les vents. On est des colonnes. Une colonne, essayez de souffler une colonne qui soutient une immense bâtisse. Mais on est en train de soutenir quelque chose de puissant, puis de quelque chose de gros, puis c'est la parole de Dieu qu'on soutient. Puis nous sommes les colonnes. C'est par la grâce de Dieu qu'on nous le sommes devenus. On n'est pas meilleur que personne. Mais il ne faut pas être gêné d'être une colonne quand c'est le temps d'être une colonne, puis de soutenir ce qu'on a à soutenir quand c'est le temps de la soutenir. On est là pour se battre pour cela. Paul, il connaissait l'importance puis le danger de ne pas demeurer dans l'enseignement reçu. Paul, il connaissait l'importance et le danger de ne pas demeurer dans l'enseignement reçu, dans ce qui est écrit dans la Bible. Il nous dit dans 1 Corinthiens 15, dans le verset 1, « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé. » Que vous avez reçu, dans laquelle vous avez persévéré, et par laquelle vous êtes sauvés. Si, il y a une grosse condition là, si, ça, là, ceux qui disent qu'il n'y en a pas de condition, c'est que c'est un salut inconditionnel, c'est une fausseté, parce que moi je vois une condition ici. Un si, c'est une condition. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Paul, il savait que c'est important de demeurer dans l'enseignement de la parole de Dieu, dans les révélations, dans la foi qui a été transmise aux saints, dans l'Évangile, il faut demeurer tel qu'on l'a reçu. Pas tel qu'on a nécessairement entendu, parce que des fois, on peut avoir entendu de la bouche de l'un puis de l'autre des choses, puis ça se peut que ça ne soit pas vrai qu'est-ce qu'on a entendu. Mais qu'est-ce qui est écrit là, ça ne change pas. Ça, vous savez que la Bible, on a encore les écrits originaux qui datent écrits en grec. On n'a pas les originaux que du temps de Jésus, des premiers apôtres. Ce qu'on a, c'est des codex, c'est des rouleaux qui datent de 350-400 ans après Jésus. Mais ils ont découvert dans la grotte de Qumran des écrits de l'Ancien Testament. Ça, ils ont découvert ça il y a 50 ans, puis ça aurait été enterré avant Jésus. Puis qu'ils ont découvert les écrits de l'Ancien Testament, ils ont comparé des livres, puis c'était écrit encore la même chose de ce qui était là il y a 2000 ans et plus. On le sait que la parole n'a pas changé parce qu'il y a des gens qui ont pris la peine de la transcrire fidèlement. Fait que les écrits qui nous sont transmis là, c'est la vérité. C'est l'Évangile qui nous a été transmis aux saints. C'est ce qu'il faut persévérer. La parole là, qui est écrite là, c'est ce qu'il faut bâtir notre vie dessus. Ah oui, Paul, il connaissait l'importance de demeurer dans les enseignements reçus. Il dit, c'est l'Évangile que vous avez entendu, qui vous a sauvé, si vous la retenez telle qu'elle, la minute que tu commences à modifier des affaires et à croire en autre chose qui est révélée là, t'es perdu. Qu'est-ce que je disais tantôt, là, qu'il y en a qui disent, « Oh, moi, j'ai été sauvé v'là 20 ans. » Non, ben, v'là 20 ans. Enlevez 2-0. J'ai été sauvé v'là 20 ans. Sauvé tout le temps, peu importe ce que je fais, c'est faux. Puis là, ils se mettent à croire en n'importe quoi, puis ils changent même de foi, ils s'en vont dans des religions, puis ils pensent que le salut ne se perd pas. Si jamais un jour vous voulez faire une étude, j'ai un livre, une petite étude chez nous qui parle de l'apostasie, puis qui parle comme quoi que l'apostasie, c'est quelqu'un qui est dans la communion avec Dieu, puis qui divorce avec Dieu. C'est un abandon de la foi dans un écrit dans un autre verset, puis l'apostasie, c'est un divorce de Dieu. Le mot grec qui est apostate, là, ça veut dire divorcer d'avec Dieu. Ils ont décidé de laisser le chemin qui est en train de suivre, qui ont reçu, qui ont cru, qui ont marché, qui ont goûté, ils ont pris part au don céleste, ils ont goûté au Saint-Esprit, ils ont lâché, puis se sont détournés. Il y en a plein de versets, il y en a 80 versets dans le Nouveau Testament qui touchent ce sujet-là. Si vous voulez faire une étude approfondie là-dessus, un jour, si Dieu le veut, on va le faire. Mais le but n'est pas là. Même pour la base de notre foi, par quoi qu'on est sauvé? On est sauvé pas par nos œuvres, on est sauvé par notre foi en Jésus, que Jésus est payé pour le 2000 ans, qui est mort sur la croix pour pardonner nos péchés. C'est grâce à son sacrifice que je suis sauvé. C'est pas par mes performances, c'est pas par une religion, c'est pas par des pratiques de rituels, c'est pas par des cérémonies, c'est pas par un purgatoire pendant X temps pour réussir à être pardonné, puis là finalement sortir de là, puis payer par nous-mêmes nos péchés. Ça, c'est aucunement. C'est par la foi au Seigneur Jésus-Christ, c'est ça l'Évangile. Puis on n'a pas à sortir de ce contexte-là. Mais après ça, quand tu as la foi, ça t'amène à pratiquer des œuvres. Puis quand tu pratiques les œuvres que Dieu a préparées d'avance, c'est de produire des œuvres dignes de la repentance. Parce que la foi sans les œuvres est morte. Fait que là, tu vas avoir des œuvres qui sont conformes à la volonté de Dieu. Pas pour te sauver, pour démontrer ta foi. Ça, c'est une foi vivante qui est selon l'Évangile qui est enseigné dans le Nouveau Testament. Gardez ce chemin-là jusqu'à la fin. Recevez les instructions, les règlements qui vont aussi là-dedans, les commandements du Seigneur, les modes de vie que le Seigneur nous a enseignés. Il faut les garder, il faut garder notre foi, il faut les pratiquer, il faut les vivre chaque jour. Puis si on manque à quelque part, ça va arriver à tout le monde de manquer, de tomber. Qu'est-ce qu'on fait? On demande pardon. On demande pardon à Dieu, puis Dieu, le Saint, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Puis là, on garde notre communion avec lui, tu demeures dans le chemin. Ça, c'est l'Évangile, frères et sœurs. Faut pas quitter ce chemin-là. Mais aujourd'hui, il y en a plein de nouvelles options qui s'est ouvertes. C'est pas des farces, c'est ce que je vous dis là. Il y a des gens qui croient à l'écuménique. L'écuménique, là, c'est l'unification des religions. De vouloir croire que, en fin de compte, Dieu veut sauver tout le monde, même les ceux des autres religions, puis que d'arriver à dire qu'on est tous pareils, qu'on est tous frères, on a tous le même Dieu, il va tout sauver tout le monde pareil, puis je vais marcher bras-dessus avec les religions ambiantes. Aujourd'hui, ils font de l'écuménique pas juste avec les catholiques, ils font de l'écuménique avec des musulmans. C'est pas des farces, ils appellent ça islam, en tout cas avec l'islam, j'avais le mot, là, il m'est échappé. C'est un écuménique comme quoi que les musulmans croient que Mahomet a parlé de Jésus, puis ils croient que Jésus est prophète, puis ils ramènent souvent des déclarations dans son livre face à Jésus, fait que là ils disent, ils sont tous frères. Je regrette, le plan du salut n'est pas nullement ce que les musulmans prêchent. Comme le plan du salut n'est nullement comme ce que les catholiques prêchent. Le plan du salut n'est pas comme ce que les témoins de Jéhovah prêchent. Le plan du salut n'est pas le même que n'importe quelle religion, les Bouddhas qui croient en réincarnation. Il n'y a rien de commun avec l'hindouisme. Puis avec le mille dieux, parce qu'ils ont des dieux pour toutes les affaires, ni les dieux grecs, les dieux romains, mais nommez-les les faux dieux qu'il y a sur la terre, puis ceux qui les totems indiens, qui ça, oh, c'est le grand Manitou, je regrette, c'est pas Dieu, c'est un totem, c'est une idolâtrie, c'est du péché, c'est des pouvoirs occultes. Il n'y a rien de commun entre le christianisme, le vrai chrétien, le vrai enseignement de la parole de Dieu, et les religions. Dieu veut qu'on reste fidèle à sa parole. Puis il nous demande de combattre pour la foi, de rester ferme, de dire ce qui doit être dit, puis peu importe si ça plaît ou ça ne plaît pas. Paul, il savait aussi qu'il viendrait un moment où il y aura un abandon de la foi, comme clairement dit tantôt. Dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 9, nous parle d'un refroidissement des croyants. C'est pas des farces, ça parle d'un refroidissement, là, c'est pas de ceux qui ont jamais connu. C'est ceux qui ont connu. T'abandonnes la foi, c'est parce qu'il fallait que tu l'aies la foi, sinon tu n'as jamais été dans la foi. Ça ne s'adresse pas à du monde qui sont sans la foi. 2 Thessaloniciens 2, le verset 9. La Bible nous parle, c'est une prophétie là, qu'on va lire là, qui va venir un impie, qui va venir un antéchrist dans pas long. Il est déjà là le système. Le royaume de l'antéchrist est déjà là, c'est le gouvernement mondial, le G20. Le G20, là, c'est un gouvernement mondial pour contrôler l'humanité. Puis la bête a 7 têtes et 10 cornes, plus un 8e roi, ça en fait 8, 18, ça. Puis là, l'histoire d'un gouvernement mondial à 18 cornes, mais il y en a un à 20, là, présentement. Mais il peut y avoir des changements, mais c'est quelque chose de semblable à ça, une unification des systèmes politiques pour gérer sur la planète, pour contrôler la planète. Puis il va y avoir un roi là-dessus, là, qui est l'impie. La Bible l'appelle comme l'antéchrist, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et adore. Il va s'opposer à toute forme de religion, puis il va exiger qu'on lui rende un culte à lui. Cette pensée-là existait aussi dans le temps des apôtres, parce que l'empereur romain se pensait comme ça, les Césars se pensaient comme ça, puis quand ils étaient conquérants sur des territoires, ils exigeaient qu'on fasse des statues à son effigie, puis ils se proclamaient Dieu. C'est ce que Titus a fait quand il a détruit Jérusalem à l'an 70. Quand Jésus a dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre qu'il ne soit renversé, ben à l'an 70, le temple de Jérusalem a été détruit par l'empereur romain, puis l'empereur romain est allé s'asseoir dans le temple, puis s'est proclamé Dieu. Mais ce système-là, comme l'Empire romain qui va renaître, qu'il va avoir un empereur à sa tête. Cet empereur-là va revenir un système semblable qui va gérer sur la terre et qui va empêcher, il va s'opposer à toute forme de religion puis il va vouloir qu'on lui adhère un culte. Mais il va avoir des démons qui vont travailler en même temps que lui, il va vouloir apparaître. Parce qu'il va y avoir une fausse religion qui va, la bête à deux cornes, qui parle, qui a un vêtement de brebis, mais qui parle comme un dragon. C'est une fausse religion puissante sur la terre, qui va donner l'autorité de la bête politique, qui est cet empire romain-là, qui va régner sur toute la terre. C'est elle, la bête religieuse, qui va faire une image représentant la bête à sept têtes et dix cornes, puis qui va faire que tous les habitants de la terre se prosternent devant cette image-là. Une image qui va être animée. On ne connaît pas tous les détails, mais on sait qu'ils vont faire que tout le monde va se faire marquer d'une marque sur la main droite ou sur le front, puis on ne pourra pas acheter ni vendre sans voir la marque. C'est la marque de la bête. Ce système-là est à la veille d'être installé. Tout le système est presque accompli partout sur la Terre qu'on pourrait avoir accès à notre carte de guichet, notre carte de débit, les informations de notre assurance maladie. Tout est donné sur nous, sont là. Il reste juste à rassembler dans un système, puis qui va être là ou là, main droite ou sur le front, puis que le système va être mis en place par un antéchrist. Mais il dit que l'apparition de cet impie, dans le verset que je viens de ce que je viens de vous déclarer, c'est dans 2 Thessaloniciens 2, verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. C'est le diable qui fait ça. Avec tout ça, lisez bien ce verset-là. Qu'est-ce qu'il va faire, ce diable-là, là, ce antéchrist-là? Toutes sortes de miracles, des signes puis des prodiges mensongers. Pourquoi ils sont mensongers? C'est parce que c'est pas Dieu qui est fait. Mais lui, il se proclame Dieu. Et regardez la puissance que j'ai. Puis là, il va y avoir des miracles. Il peut avoir même là des signes, là, puis des montrer qu'il est bien puissant. Il peut avoir des pays qui sont en banqueroute financièrement, puis que là, ils sont relevés financièrement par ces manigances. Toutes sortes d'affaires qui peuvent arriver que ça semble beau, ça semble bon. Mais ça ne veut pas dire que c'est de Dieu. Parce que c'est pas Dieu qui est en arrière de cet antéchrist-là. Là, il va y avoir toutes sortes de signes de prodiges mensongers. Avec, aussi, la séduction de l'iniquité. La séduction de l'iniquité, là, c'est « Ah, oh, que ça a de l'air beau! » C'est une séduction, là, c'est parce que ça a de l'air beau, ça a de l'air bon, ça a de l'air... Oh! Là, on va tous tomber en amour avec ça. Mais pas tout le monde qui va tomber en amour avec cela. C'est le monde séduit qui va tomber en amour avec ce système-là. Un système qui est l'apogée de la rébellion contre Dieu. Parce que les hommes ne prient pas pour que Dieu vienne régler les choses. Ils ont tassé Dieu. Là, ils se disent qu'ils sont Dieu. Ça, c'est l'accomplissement de la promesse du diable à Adam. Il dit à Ève, il dit, si t'en manges, tu vas devenir Dieu. Puis là, l'antéchrist dans le système de la fin, lui, il se dit qu'il est Dieu. C'est comme l'accomplissement. Les humains, ils aiment ça, se sentir qu'ils sont importants et qu'ils se pensent Dieu. Même Jésus, qui était Dieu, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il s'est dépouillé lui-même puis il a pris une forme de serviteur. Puis il a paru comme un simple homme. Tandis que les humains, chers, puis là, ils essaient d'arranger les affaires par eux-mêmes. Puis là, il va dire, c'est moi, Dieu, regardez la puissance que j'ai. Puis là, les choses qui se passent. Puis tout le monde va être en admiration devant les miracles que la bête va faire. Ils vont être séduits. Puis les séductions, pas juste d'être séduits par une tromperie, séduits par l'iniquité, l'injustice, le mensonge, parce que ça vient pas de Dieu. C'est l'homme qui se glorifie par la puissance de Satan, puis c'est culte à Satan. Fait qu'il y a des pouvoirs occultes qui vont agir pour mettre en place ce système politique-là sur la terre. Puis là, regardez bien le verset 11, là. À cause de cela, là, dans cette période-là, ça va être grave sur la terre, parce que tout le monde va être séduit. Dieu va envoyer une puissance d'égarement dans ce passage-là. Non seulement le diable travaille pour rassembler le monde avec toutes sortes de miracles, mais Dieu va envoyer une puissance d'égarement à ceux qui n'ont pas reçu de l'amour, de la vérité. Ça dit, ils vont avoir une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, la foi de l'Évangile, mais ils ont pris plaisir à l'injustice qu'ils soient condamnés. Dieu va travailler avec le diable pour que tout le monde adhère. Mais qui va adhérer? C'est seulement ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est qui a reçu l'amour de la vérité pour être sauvé? Levez votre main. C'est nous. C'est nous qui avons reçu l'amour de la vérité. On est en amour avec le Seigneur Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. On est en amour avec sa parole. On est en amour avec les frères et sœurs qui sont les frères et sœurs de Jésus. On est en amour avec Dieu le Père, puis on veut faire sa volonté. On l'a reçu, l'amour de la vérité, puis on marche dans cet amour. Mais là, Dieu nous demande de prendre garde, parce qu'il va y avoir un temps où les gens ils vont faiblir, puis ils vont être séduits. Puis ceux qui ne demeurent pas dans cet amour de la vérité-là, ils vont s'égarer. Paul, il s'était fait un devoir de superviser les églises de son temps et de veiller à l'enseignement qui était véhiculé dans ces églises-là. Paul, là, il checkait. Ah, qu'est-ce qui se passe à Corinthe? Ah, là, il voyait des choses, il envoyait une lettre. Deuxième lettre à Corinthe. À Galate, qu'est-ce qui se passe? Ah, il se passe. Il envoyait une lettre à Galate, puis il envoyait une lettre à Éphèse, aux Philippiens. Il envoyait des lettres aux gens parce qu'il voyait. Il s'en faisait un devoir de surveiller ce qui se passait dans les églises pour corriger les faussetés, les hérésies, les mensonges. Puis là, dans ses écrits, tu lis ça, là, on dit, moi, il me semble quelqu'un qui rentrait dans l'église ici, puis commencerait à nous parler de même, tort, je ne sais pas s'il serait bienvenu, là, wow, calme-toi, là. Mais il ne faut pas oublier que Paul il avait été celui qui les a mis au monde, ces églises-là. C'est des églises qui a travaillé pour qu'ils soient installés. Fait que Paul, il regarde ce qui se passe dans les églises, puis il leur envoyait des lettres, puis on va aller lire quelques petits détails qu'il a écrits dans ses lettres, dans 1 Timothée au chapitre 1. Il ne voulait pas que les chrétiens s'éloignent de la vérité. On va voir quelques-unes de ses recommandations. Au verset 3. 1 Timothée 1, verset 3. Paul, il parle à Timothée. Il dit, « Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes. » Ça, il recommande à des chrétiens dans cette église-là, là. De ne pas enseigner d'autres doctrines. Parce qu'il y avait d'autres doctrines qui s'enseignaient dans l'église de Macédoine à Éphèse. Il dit, je t'ai engagé de rester à l'église d'Éphèse puis de recommander à certaines personnes qui arrêtent de prêcher d'autres doctrines que la doctrine de la parole de Dieu. Et, deux autres petits points, de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'à l'avance l'œuvre de Dieu. Là, il dit, le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, une bonne conscience puis une foi sincère. Il dit, quelques-uns, écoutez bien cette phrase-là, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Voyez-vous, il y avait trois affaires qu'il fallait prendre garde. Des fausses doctrines, les fables, puis des généalogies. Pourquoi des généalogies? Ça, nous autres, on n'est pas réellement attachés aux généalogies. Mais quand tu es un juif, né de juif, de telle descendance, là, il tenait à l'importance de « je suis fils de », puis là, c'est important, puis le monde s'élevait, puis ça se pensait supérieur, puis ça se pensait meilleur, parce qu'il descendait de Salomon, puis l'autre descendait de son frère. Puis ça faisait des histoires, parce que la généalogie, là, on le sait, qu'il y a ceux qui étudient la généalogie, souvent, là, il y a des bouts qui nous manquent des noms, puis là, tu retraces un autre restant d'autres noms, tu peux finalement finir par retrouver ta... Mais t'es même pas sûr que c'est vrai, mais on en met des généalogies, puis on pense que ça sert à quelque chose. Ça sert juste à s'ostiner que ça dit dans ce verset-là. Ça n'a aucune valeur au point de vue de Dieu. Que tu sois un descendant direct de l'apôtre Paul, on ne sait même pas s'il était marié, fait que même si tu essaierais de dire que tu es plus parce que tu... Non, ça n'a aucune importance, ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. On est tous un en Jésus-Christ. Mais, des fausses doctrines, ça c'est grave. Nous autres, en généalogie, on ne touche pas à ça. Mais l'autre petit point que je vais vous parler, c'est les fables. Savez-vous c'est quoi une fable? Les fables de la fontaine. J'ai été voir sur Internet, juste pour me donner une petite définition du dictionnaire du mot fable. Une fable, c'est un court récit fictif qui comporte un enseignement qui cherche à instruire. Fait que c'est rien qu'un petit récit, mais c'est tout du fictif, puis ça a le but d'emmener une instruction. Elle se caractérise généralement par l'usage d'un symbole animal avec des personnages fictifs, comme le renard et le corbeau, ou le lièvre et la tortue, la cigale et la fourmi. Ça, c'est des fables. Mais c'est dans le but d'amener une instruction. Puis là, il y a des dialogues, puis des fois, il y a des finales comiques. La morale est soit à extraire du texte ou est exprimée à la fin. Le but, c'est que ça amène un enseignement moral. C'est pas nouveau, ça, des fables. Ça existait dans le temps des apôtres. C'était là, puis il y a des chrétiens qu'au lieu d'utiliser les écrits de l'Ancien Testament qui étaient là, plus les lettres des apôtres qui se véhiculaient dans les églises pour donner de l'enseignement aux brebis, puis demeurer dans la doctrine de la parole de Dieu. Ils prenaient les fables existantes de ce temps-là, puis ils ramenaient ça à l'Église dans leurs enseignements. Qu'est-ce que ça fait? C'est que tu es en train d'enseigner le peuple de Dieu avec des choses qui sont jamais arrivées, puis ils ont toutes des morales puis des instructions non bibliques, que Dieu a jamais enseigné ça. Ça t'amène à croire que autre chose que ce que Dieu a déclaré. Même si tu aurais la morale du lièvre et de la tortue, ou de la morale de l'autre, le corbeau qui a échappé son morceau de pain. Là, tu fais une belle histoire, les enfants ils aiment ça, des belles histoires. C'est tout du fictif, du faux. Puis la Bible nous dit de ne pas s'attacher à cela. Il dit, je t'engage à Éphèse, puis de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner de fausses doctrines, ni des fables, ni des généalogies. Ça fait juste du trouble, puis c'est anti-biblique. Autrement dit, prenez donc les enseignements de la parole de Dieu. Il y en a plein des exemples pour tous les sujets. Tu peux prendre des exemples de faits vécus de la parole de Dieu avec des vrais personnages vrais, vivants, des vraies histoires que Dieu a voulu. Ça nous sert pour notre instruction. 2 Timothée 4, il y a un peu la même idée. Vous allez voir que au verset 3, il va venir un temps où ce que les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. C'est quoi la sainte doctrine? La sainte doctrine, pas les doctrines ou les fables. Ils ne supporteront plus la sainte doctrine. Mais il y a en démangeaison d'entendre des choses agréables. Oh, que c'est beau. C'est le fun d'entendre ça. Ils ne veulent pas entendre la Bible. Ça, c'est trop rough, c'est trop sévère, c'est trop carré. Ils ne veulent pas entendre les vraies affaires. Ils veulent entendre juste... Oh, ça me fait plaisir. Raconte-moi encore la cigale et la fourmi. Ils supporteront... Mais ils veulent entendre des choses agréables. Ils vont se donner une foule de docteurs selon leur propre plaisir. Ils détourneront l'oreille de la vérité. Là, on parle à des chrétiens. Ils vont détourner l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Je viens juste de vous parler, c'est quoi des fables. Ils veulent plus d'exemples bibliques. Ils veulent plus d'enseignement de la parole de Dieu. Ils veulent plus de saintes doctrines. Nous, les chrétiens, on est les défenseurs. On est la colonne, l'appui de la vérité. Mais si on commence à tasser cela, puis on commence à croire aux fables, puis proclamer des fables, qui est toutes des choses fictives, puis c'est pas des enseignements de la parole de Dieu. On est en train de détourner notre oreille de la vérité. Il faut rester dans la vérité. On est ses défenseurs. Il y a une seule manière de combattre pour que la parole demeure crue et élevée. Dans 2 Timothée 4, le verset 1-2, c'est juste avant. Et je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Quand tu dis, là, je te conjure, là, je t'en conjure, quand quelqu'un, je t'en conjure, ça veut dire, c'est une obligation de faire ce qui est écrit là. Et je te conjure devant Dieu, là, il est en train de dire de quoi de formel. Il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Puis là, c'est là qu'il dit de ne pas s'attacher à ce que je viens de vous dire, là, qu'il va venir un temps, le monde ne voudra pas entendre ça, puis ils vont abandonner la vérité. Ils ne veulent plus écouter la sainte doctrine, puis aiment mieux les fables. Mais là, il dit, je te conjure, prêche la parole, insiste. Peu importe si l'occasion est favorable, dis les vraies affaires. T'es un défenseur, t'es une colonne quand tu commences à affirmer. Paul nous encourage à combattre par la foi sans se laisser effrayer. Souvent, on a peur. On est gêné. On a honte. Ou on ne sait pas quoi dire. Il y a toutes sortes de raisons pourquoi on n'accomplit pas notre tâche. Dans Philippiens 1, 27, je vais vous le lire. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile, afin que soit que je vienne vous voir ou que je reste absent, j'entende dire que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Combattant d'une même âme tout ensemble pour la foi de l'Évangile. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. C'est pour eux une preuve de perdition. S'il y a du monde qui s'oppose à ce que vous êtes en train de prêcher, c'est une preuve qu'ils sont perdus. Mais pour vous, de salut. Ceux qui recherchent à conserver la sainte doctrine auront des adversaires. Jésus n'a eu, les apôtres n'ont eu. Tous les chrétiens, après, dans l'histoire des Actes et dans tous les temps, ont eu des adversaires parce qu'ils prêchaient la parole de Dieu. Mais on ne doit pas se laisser effrayer, puis qu'on a à combattre d'une main membre pour la foi. C'est le combat du chrétien. Un des critères, là, un des beaux critères que ceux qui veulent combattre pour la foi, là, dans Actes 17, 11, ça nous parle des gens de Béré. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, puis examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Vous voulez être des bons combattants pour le Seigneur? Mais examinez la parole, étudiez-la la parole, vérifiez si ce qu'on vous dit est biblique. Faut pas se fier, « Oh, c'est clairement qu'il l'a dit, ça doit être vrai. » « Ah, c'est Daniel qui a dit ça, ça doit être vrai. » Allons vérifier, c'est notre devoir d'aller vérifier. Puis on ne dira pas, « Oh, je ne savais pas. » On n'a pas d'excuses devant Dieu, on est responsable de ce qu'on laisse entrer comme information et ce qu'on veut vivre. Pour devenir un ouvrier dans le Seigneur, là, mettons quelqu'un qui aspire à être un ouvrier dans le Seigneur, qui veut être un prédicateur, puis qui veut avoir le titre, là, avoir des titres. Il y avait des critères. Puis un de ces critères-là est vraiment intéressant. Il faut qu'il soit attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée. C'est pas suffisant de prêcher les belles affaires. Il y en a qui prêchent bien, mais est-ce que c'est vraiment biblique? Un vrai prédicateur va vouloir rester attaché aux vraies paroles. Pourquoi qu'il mentionne vraies paroles? Parce qu'il y en a des faux, des gens qui tordent le sens des écrits, puis qui prêchent des faussetés. Il faut qu'ils soient capables d'attacher à la vraie, à celle qui a été enseignée dans la parole de Dieu. Puis il faut qu'ils soient capables d'exhorter selon la sainte doctrine. faut que tu sois capable d'enseigner puis d'exhorter avec la sainte doctrine, pas avec les doctrines. Parce que, regardez bien pourquoi, il y a parmi les circoncis, si on parle des Juifs qui marchent selon la loi, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs, des séducteurs, ils séduisent les chrétiens, là, auxquels il faut fermer la bouche. Quand tu es un ouvrier, il faut que tu dises, je regrette, c'est pas ça qui est écrit dans la Bible, puis il faut que tu y dises, il faut que tu y fermes la bouche, il est en train de tromper le peuple de Dieu. On doit être capable de veiller sur le troupeau, puis de la connaître, la sainte doctrine, puis être capable d'enseigner les vraies affaires, puis de dire non à ce qui n'est pas biblique, puis d'accepter les choses qui sont bibliques. Un dernier verset. Paul encourage Timothée. Puis cela, ce verset-là, on peut se l'appliquer pour chacun de nous. Au chapitre 4, le verset 13. Un Timothée 4. Paul est en train de parler à Timothée. Jusqu'à ce que je vienne, en attendant, là, Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné avec prophétie, par l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Verset 15. Occupe-toi de ces choses. Lecture, exhortation, enseignement. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même puis sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. C'est une grande responsabilité, mais pas juste pour moi ou pour Clairement, pour chacun de vous. Veillez sur vous-même et sur votre enseignement. Parce que même les chrétiens qui sont pas prédicateurs peuvent enseigner des faussetés aux autres et les égarer, leur donner de fausses consolations. Puis les gens, ils marchent dans KUKA, ils savent plus où s'en aller, ils sont aveuglés, ils sont trompés, puis on peut être des faux prophètes nous-mêmes en répétant des autres choses qu'on a entendues ailleurs. Applique-toi, lecture, exhortation, enseignement. Ça devrait être une passion pour tous les chrétiens de rechercher à connaître la Bible, connaître les enseignements, les écrits, puis être capable, si on est capable, d'en apprendre par cœur. Puis, tu sais, de la méditer, là, pour la méditer jour et nuit, il faut que tu en connaisses des bouts par cœur. Comment, si tu veux méditer ce que tu ne sais pas par cœur, tu vas-tu traîner ta Bible toujours avec toi, partout où tu vas? À quelque part, faut réfléchir à la Bible. Puis il faut se nourrir de la Bible, puis il faut être capable de prêcher, puis de veiller sur nous-mêmes, parce qu'on va se sauver soi-même, puis on va sauver ceux qui nous écoutent. C'est fort. Parce que tout le monde dit, t'as accepté Jésus il y a 20 ans, puis c'est pas grave qu'est-ce que tu vis, puis qu'est-ce que tu crois. Voyons donc, c'est quoi cette doctrine-là? Si là tu fais pas attention là, tu peux faire perdre du monde. Puis il y a des versets, je peux vous sortir jusque des exemples de gens qui se sont perdus dans le Nouveau Testament. Faut rester dans la sainte doctrine, l'enseignement de la parole de Dieu. Puis il faut que vous appreniez que vous êtes des combattants pour la sainte doctrine. Vous avez à combattre pour la défendre. Vous êtes la colonne. Vous êtes les gardiens de la vérité. Amen. Prions. Père, c'est dans le nom de ton Fils Jésus qu'on est rassemblés. Je te remercie pour ta parole, Seigneur, qui nous parle du combat du chrétien à rester ferme dans la sainte doctrine. Seigneur, cet amour que tu aimes en nous pour la vérité, qu'elle grandisse encore plus. On ne veut pas être séduit par le mensonge lorsqu'il va dans l'apparition de l'impie. On veut rester ferme, rester en amour avec ta parole, puis être des colonnes solides dans ton temple pour proclamer ta parole telle qu'elle est enseignée, telle qu'a été donnée. Donne-nous, Seigneur, cet attachement, qu'on écoute, qu'on n'accepte pas toute déclaration comme c'est du cash, mais qu'on aille vérifier ce qui est écrit, si c'est biblique. On remet nos ventres tes mains, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.